Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Réjouissez-vous, mes bien chers frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Cette invitation de l'introïte de la messe que reprend saint Paul, ou c'est plutôt l'introïte qui reprend saint Paul, bien sûr, doit être ancrée au plus profond de nos cœurs en ce dimanche dit de Gaudete, qui nous fait nous habiller en rose, c'est-à-dire nous fait voir déjà à travers la couleur violette de la pénitence surgir l'or, la blancheur qui arrive, c'est-à-dire nous réjouir déjà par avance. Voilà le sens des couleurs liturgiques qui ont pour but de nous faire comprendre et sentir, comme le dirait saint Ignace, profondément ce que nous avons à fêter, car les sens sont les fenêtres de l'âme. Alors, je vous propose tout simplement de voir d'abord la joie chrétienne, la joie, c'est une vertu, et ensuite de voir le Christ au milieu de nous, tel que nous l'annonçons. Tout d'abord, la joie chrétienne. Je vais d'abord faire un détour, je vais d'abord vous parler du monde et de la joie, pour ensuite vous parler de la vraie joie chrétienne. Pourquoi ce détour? Parce que c'est un peu étonnant de parler du monde et de la joie. Je ne suis pas sûr que le monde connaisse vraiment la joie. Vous êtes détenteur d'un secret tout à fait ineffable que le monde ne connaît pas. Hier, dans ma paroisse de Saint-Roch, nous avions fait une petite mission sur les marches de Saint-Roch, comme vous le faites, je crois, aujourd'hui, et nous distribuions des images de Noël avec les horaires des messes. Une manière comme une autre d'aller témoigner de notre foi, de dire la venue du Christ en ce monde. Or, qu'avons-nous rencontré? Je pouvais, dès l'abord des gens, après il y a toujours une petite surprise, vous savez, à Paris, il n'est pas d'usage de se parler. Quand on se croise à Paris, on ne se parle pas. C'est l'inverse de la province, voilà, où naturellement on peut faire un sourire aux gens, ils vous répondent. Bon, à Paris, normalement, non. Bon. Mais quand on arrive à briser ce premier barrage, les gens ne sont pas plus méchants à Paris qu'ailleurs, et ils finissent quand même par vous sourire. Si, et seulement si, ils vous reçoivent. Ça, c'est normal. Eh bien, j'ai fait l'expérience hier que de nombreuses personnes étaient tristes, mais tristes à mourir. Alors qu'on leur disait, est-ce que vous voulez, tenez, une petite carte de la nativité pour Noël? Eh bien, certaines personnes, à ce moment-là, s'ouvraient, souriaient, et je reconnaissais certainement des chrétiens ou des gens de bonne volonté, ouverts à la joie que nous avons à annoncer au monde. Et puis, il y en a d'autres qui avaient un regard normal et qui, après avoir compris de quoi il s'agissait, se refermaient et faisaient un visage d'une tristesse insondable. Alors, je me demande pourquoi les gens sont tristes, parce que hier, c'était samedi, et les gens qui font leurs courses rue Saint-Honoré ne font pas partie des plus défavorisés des Français, j'imagine, à regarder les prix des boutiques qui m'entourent. Alors donc, il faudrait imaginer qu'ils éructaient de joie de pouvoir dépenser de l'argent, et voilà, etc. Et c'était tout le contraire. Ils étaient tristes à mourir, et quand les gens refusaient mon image, je leur disais, au moins, voulez-vous un vin chaud? Ça vous rendra peut-être le sourire. Bien. En fait, le vin chaud, seulement ceux qui souriaient d'abord l'ont déjà pris. Bref, vous l'avez compris, la tristesse est malheureusement une des vertus du monde, c'est-à-dire celle qui n'arrive pas à satisfaire son âme, car un homme est un composé de corps et d'esprit, et si vous ne nourrissez que le corps, eh bien vous ne pourrez pas connaître le vrai bonheur qui est l'épanouissement de mon âme. Non, ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en se bourrant de foie gras ou d'iPhone qu'on arrive au bonheur suprême. Ce n'est pas comme ça. Le véritable bonheur est spirituel. Je n'ai rien contre les iPhones, je n'ai rien contre le foie gras, j'aime même beaucoup ça, c'est pas le problème, je ne méprise pas mon corps, mais je sais que ma joie est bien supérieure, qu'il y a quelque chose de plus en moi qui nécessite que vienne dans mon âme quelque chose de spirituel pour connaître vraiment le bonheur. L'exemple littéraire, si vous voulez, aujourd'hui, de cette tristesse du monde, eh bien, si vous en voulez un exemple, vous n'avez qu'à lire Cioran. Bah, le lisez pas trop, quand même, parce que faut lire par petite dose. C'est du poison. Vous pouvez le lire. C'est très bien écrit. C'est très fin. C'est très spirituel. Enfin, spirituel au sens intellectuel. Et c'est très triste. Et ça a d'ailleurs mené son auteur à la mort. Et puis, si vous ne rencontrez pas des gens dans le monde qui ne sont pas tristes, vous allez en rencontrer qui vivent une joie factice, une espèce de joie idiote qui est produite simplement par un dérèglement, une espèce de déséquilibre permanent, comme celui qui boit, qui boit, qui boit pour essayer de trouver le bonheur et qui finit naturellement par avoir le vin triste. Hier, toujours en distribuant mes petites images, décidément on en fait bien des choses en parlant aux gens, je tombe sur un groupe de 3 jeunes gens assez délayés, et puis je leur donne une petite image pour Noël. Et alors l'un d'eux m'apostrophe et me dit « Oh, mais c'est pour Dieu qui est né, c'est ça ?» Je lui dis « Oui, exactement. » Il me dit « Mais c'est pas possible, parce que Dieu n'existe pas, alors il n'est pas né. »« Ah bon ?» Alors je lui dis « Alors l'un de nous deux se trompe, forcément, ou vous, ou moi. » Ah, alors il me dit « Bah, si ça se trouve, c'est vous. » J'ai dit « Bah, moi, je pense que c'est vous. » Et alors, il voit bien le piège. Il me dit « Bah, on verra bien. » J'ai dit « Oui, on verra. On verra à la fin de votre vie, vous qui venez de nulle part et qui allez nulle part, on verra bien où vous irez. Vous irez nulle part, c'est votre lieu. C'est comme ça que nous appelons l'enfer, nous les chrétiens. » Alors, je le vois de son sourire narquois se décomposer un peu, et ses deux camarades de le soutenir en disant « Oh, excusez-moi, joyeux Noël !» Et ils sont partis. Oui, nous avons à annoncer la joie au monde, la joie que savoir que le Christ est né et que nous sommes sauvés. Cette joie chrétienne, vous l'avez compris, est une joie intérieure, elle est spirituelle, elle vient de la paisibilité, de la certitude que nous avons que le Christ vient jusqu'à nous. Alors la paix, évidemment, est le fruit de l'effort qui nous mène jusqu'à l'abandon spirituel. L'abandon spirituel, c'est peut-être la dimension la plus difficile de la vie spirituelle. Mais croyez-le bien, abandonnez-vous. Arrêtez de tout vouloir contrôler. C'est tout le contraire de ce que prêchait Nietzsche, qui croyait, lui, trouver la joie dans une espèce de force que j'aurais moi-même soutenue, et puis finalement, il a été obligé de lâcher lui aussi, et lui aussi s'est suicidé. Eh oui, nous ne voulons pas finir nulle part, nous ne voulons pas finir n'importe où, nous savons où nous allons vers Dieu. C'est ça qui nous procure cette paix incroyable. Un jour, toujours, quelqu'un disait à un élève de mes dirigés, qui me disait, voilà, je suis monté dans une voiture et on m'a dit, oh là là, vous avez inventé Dieu, parce qu'ils ont parlé du bon Dieu, évidemment, vous avez inventé Dieu pour vous consoler de la vie. Mais ce n'est pas parce que Dieu est une consolation qu'il n'existe pas. Je pense que l'amour est une consolation. Ça vous console des peines de la vie que quelqu'un vous aime. Ben, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Je pense que le baume que vous mettez sur votre plaie est une consolation. Ce n'est pas pour ça que votre blessure n'existe pas. C'est un argument idiot. Évidemment que Dieu est une consolation. Évidemment que Dieu console mon âme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe. C'est parce qu'il existe vraiment que mon âme est vraiment consolée. Alors gardez cette sérénité, cette certitude morale de savoir que Dieu vient. C'est une certitude qui n'est pas une preuve. C'est une certitude qui repose dans l'élan de notre foi, c'est-à-dire dans cet abandon auquel je vous appelais pour vous en remettre à lui. Car non seulement le Seigneur a voulu venir, mais non seulement il a voulu que nous croyions, c'est-à-dire que nous nous en remettions à lui, que ça soit nous qui fassions cet acte d'amour en réponse au sien. Voilà la vraie joie chrétienne qui n'est pas une joie crétine, une joie de bisounours qui croit que tout est beau, tout est gentil. Non, c'est la joie de savoir que nous allons être recréés à travers le mal, à travers le péché, à travers la maladie et à travers la mort. Oui, nous le croyons, notre joie réside dans la certitude de savoir que Dieu vient jusqu'à moi. Alors mettons-nous maintenant à l'école de Jean le Baptiste, qu'on est venu interroger, car là aussi on se demandait, mais quelle joie habite cet homme ? Pourquoi prêche-t-il dans le désert avec une telle ardeur et une telle fougue ? Alors on est venu l'interroger. Serait-il le Messie ? Il le dit avec une netteté incroyable. Non, je ne suis pas le Messie. Mais bien, chers frères, cette attitude est difficile aussi. Quand nous annonçons le Christ, il est difficile de ne pas nous annoncer nous-mêmes. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Déjà, au XVIIe siècle, le pape envoyait aux missions étrangères de Paris une bulle en leur disant « Partez dans le monde, partez dans toute l'Asie, annoncez le Christ, mais attention, n'annoncez pas l'Europe, n'annoncez pas votre culture, annoncez le Christ qui va prendre racine là où vous allez. » Cette consigne est encore vraie pour nous. Quand vous rencontrez des gens, quand vous rencontrez dans le monde des personnes qui attendent la révélation de Dieu, faites attention. C'est un peu inéluctable. Je porte ma culture, mon histoire, ma famille avec moi-même. C'est pas un péché. Mais gardez la distance nécessaire pour que la personne puisse choisir le Christ et pas vous. Puisse choisir vraiment la doctrine sacrée de Dieu et pas votre idée de la doctrine de Dieu. Hier, le cardinal André 23, dans une messe d'action de grâce, a espéré, dans son homélie bien tournée, il a espéré qu'il s'était vraiment désengagé, qu'il avait vraiment abandonné ses propres idées pour n'annoncer que le Christ. Voilà l'attitude du vrai chrétien qui suppose d'être attentif à l'autre et qui suppose de ne briller que de la lumière du Christ. Bien sûr, il y a beaucoup de missions dans le monde, il faut faire beaucoup de choses dans vos familles, dans vos métiers, dans la société, dans les associations. Il faut faire beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est quand même d'annoncer le Christ, y compris dans vos familles, y compris dans les associations, y compris dans la société, y compris dans la politique. Voilà ce qu'il faut annoncer au monde, d'abord le Christ. Vous êtes, mes bien chers frères, en quelque sorte comme des réverbères. Ce n'est pas le réverbère qui est important, on s'en fiche un peu. Bon, s'il est joli, ça va, c'est pas grave, c'est bien aussi, s'il s'intègre bien dans la ville. Mais l'important, c'est qu'il brille uniquement de la lumière et pas du réverbère. Vous êtes comme des réverbères qui brillent dans le désert où nous avons à prêcher et où les gens vont se tourner vers vous. Si vous osez annoncer le Christ, les gens vont vous écouter, soyez-en certains. Si votre réverbère est éteint, vous ne servez plus à rien. Est-ce que peut-être vous êtes encore chrétien ? Je n'en suis pas sûr. Dernière question, celle que le monde nous pose aussi. Alors, si tu n'es ni le Christ, ni le Messie, ni Élie, pourquoi baptises-tu ? Eh bien, mes bien chers frères, si nous baptisons encore, nous baptisons avec de l'eau et c'est le Seigneur qui baptise dans l'Esprit, c'est parce que le Seigneur est toujours présent et que sa venue sur terre, que nous fêtons sempiternellement jusqu'à la fin du monde, eh bien, elle est réelle. Cette venue dans l'Eucharistie, cette venue dans son Église, cette venue sacramentelle, elle est réelle. Et elle nous fait agir au nom du Christ. Vous le savez, le prêtre opère dans la personne même du Christ, et l'Église et le Christ continuer jusqu'à la fin du monde, qui permet au Seigneur de toucher jusqu'à la fin du monde tous ses enfants. Voilà pourquoi nous avons la prétention incroyable de baptiser. Voilà pourquoi nous avons la prétention incroyable d'annoncer le Christ, parce qu'il est au-dedans de moi. C'est ce que vous êtes venus chercher ce matin, en vous unissant de cœur et d'esprit, en participant à la Sainte Messe, au Saint Sacrifice du Christ. Vous allez vous y unir, repartir avec le Christ dans votre âme en état de grâce, et alors il vous sera donné de l'annoncer et de baptiser. Ne vous désespérez pas, c'est tout le contraire. Nous sommes porteurs d'une joie qui doit se voir sur nos visages, qui doit rayonner sans cesse, car le monde attend désespérément la révélation des fils de Dieu. Ainsi soit-il.